Soin des vôtres, prenez soin des autres. Également, Marceau s'en vient prendre soin de vous autres à l'instant. Demain, on a le maire Marchand. Soyez là, 14h.
Boulevard 102.1, la radio vivante. Qui vous fait vivre des trips à Vegas,
wow! Oui, c'est moi!
New York, San Francisco pour voir du baseball, du hockey, puis qui vous envoie un peu partout pour assister aux shows de vos bandes préférées.
Quelqu'un à avoir quelques années de radio derrière la cravate, moi je me souviens pas d'avoir vu quelque chose d'aussi démentiel.
Puis qui organise même un show privé dans notre building pour voir Papa Roach. Pour tout ce qui se passe de gros, il y a Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes, puisque ce soir, j'ai un comédien qui va être avec nous, qui habite à Québec depuis plusieurs années. C'est un gars de Montréal, mais on l'a adopté à Québec. Un gars que vous avez certainement vu passer, que ce soit à la télé ou encore au cinéma, ou même, moi, de mes oreilles. Il passe dans mes oreilles, c'est un narrateur. Son nom, c'est Hugo Giroux, puis je pense qu'il fait énormément de théâtre aussi. Salut, Hugo!
Salut, salut!
Ça va bien?
Très bien.
Ouais. Comment ça que tu es venu rester à Québec? Un gars de Montréal qui descend à Québec, qui travaille régulièrement à Montréal, c'est rare qu'on voit ça. Normalement, c'est le contraire. C'est les gars de Québec, les filles de Québec qui veulent travailler en télé ou encore faire du cinéma. Ils s'en vont tous vers Montréal, vers Toronto. Toi, tu as fait le chemin contraire.
Oui. Moi, ça me fait rire à Québec. Le mystère Montréal, ça vous tabarnouche, c'est incroyable. Ben écoute, moi, j'avais 10 ans. J'ai écouté le film Les Ploufs. Le film Les Ploufs, là, un film absolument génial que tout le monde devrait regarder.
Ouais.
Sur une belle petite famille élevée sur la rue Saint-Roch, puis tout ça. C'est comme tiré du roman de Roger Lemelin, qui est un auteur québécois absolument incroyable. J'ai vu le film, j'avais 10 ans, puis je suis tombé en amour avec la ville parce que le film ne se passe qu'à Québec. On voit le vieux Québec d'une façon exceptionnelle. Puis je me rappellerai toujours de ma maman qui me regarde et elle me dit « Coudonc, calme-toi, c'est pas Prague. On va y aller. » Puis on avait passé une semaine de vacances l'été suivant. Puis je suis tombé en amour avec la ville, puis je m'étais toujours juré de rester là un jour. Moi, j'ai un travail qui me permet de... Tu sais, j'ai des horaires atypiques, fait que oui, je fais beaucoup de routes. J'aime ça prendre le train aussi.
Ouais.
Mais ça me dérange pas parce que la qualité de vie à Québec... moi, je suis quelqu'un d'un peu de routinier, fait que... de déambuler dans le vieux Québec, là maintenant dans le vieux Lévis, c'est quelque chose qui m'apaise puis qui me donne vraiment comme un repos puis une sérénité dont j'ai besoin. Mais oui, je descends à Montréal souvent. Je pestifère contre le trafic parce que là, je veux pas tomber dans le débat du trafic de Québec, mais à Montréal, c'est une autre ligue. Vous savez, ça n'a pas de sens.
Ah ouais.
Hier, j'étais en studio à la Tour de la Bourse pour des voix pour Dodge à 9h30. Je suis parti à 6h15. De chez mes parents, parce que quand je suis ici, ben je vais chez mes parents parce qu'on a une problématique avec mon père et ça me permet de les voir. Fait que je voulais prendre le stationnement incitatif du métro Montmorency pour aller au centre-ville parce que tu vas pas te mettre l'anneau au centre-ville à 8h le matin. Le stationnement incitatif à 6h45 était full. On parle de 900 places. Fait que je suis arrivé, j'ai pris mon char à la 15, il était complètement loadé. Puis je suis arrivé à 9h15, 20 juste parce que j'aime pas ça arriver en retard. Fait que c'est ça, fait que oui, je fais beaucoup de routes, mais ça me dérange pas parce que Québec-Lévis, en tout cas, on va dire là, la région de Québec, c'est une région que j'ai en moi, puis que je me vois pas retourner à Montréal, jamais, 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 jamais.
Donc très jeune, ce que tu voulais faire, c'est un jour venir t'établir à Québec. Comment l'industrie du cinéma est arrivée dans ta vie, le théâtre, le jeu, la narration aussi, que je parlais tout à l'heure? Moi, je te connais de nom, bien entendu, je regardais un peu ce que tu faisais à la télé, j'ai vu quelques films où tu étais, mais t'es plus souvent dans mes oreilles que n'importe qui d'autre, là, je t'entends souvent passer. Comment t'en es venu à t'intéresser à ça, ce merveilleux monde du jeu?
Ben, je te dirais, mon oncle Luc, qui a enseigné le théâtre au Collège Mont-Royal pendant presque 30-35 ans. Quand j'étais jeune, j'avais 8-9 ans, il nous a amené voir une pièce au théâtre Denis Pelletier sur la rue Sainte-Catherine, un théâtre. Puis moi, quand j'étais au secondaire, on allait là souvent. On allait voir tous les spectacles en matinée scolaire. Puis ça m'a... J'ai complètement été... Puis aussi, j'écoutais à l'époque la Ligue nationale d'improvisation avec Robert Gravel, mais je parle à l'époque, tu sais, j'étais très, très jeune, à Radio-Québec à l'époque, et ça me faisait capoter parce que c'était un jeu théâtral qui s'apparentait un peu comme au hockey, une espèce de deux équipes qui s'affrontent sur une patinoire, un jeu fondé par Leduc puis par Gravel. Puis, écoute, j'ai vu Robert Lepage là, j'ai vu Michel Rivard là, j'ai vu Yves Jacques, j'ai vu, bon, des acteurs absolument formidables, et... je suis tombé en amour avec ça. Puis après ça, ben, tu sais, on le sait, au primaire, on fait des, il y a des petits cours. Puis après ça, ben, au secondaire, j'ai eu la chance d'être formé. J'avais l'option art dramatique. Puis ça, à l'époque, moi, je viens de Saint-Anne-des-Plaines, donc à côté de Sainte-Thérèse. C'était immensément prestigieux. Puis c'est une école publique, mais Yves Trudel, celui qui jouait Méo dans Elvis Graton,
oui,
était comédien, mais était prof aussi. Il était prof pendant... Pas 40 ans, mais presque 35 ans à la Polyvalente Sainte-Thérèse, puis enseigner à temps plein le théâtre. Et il y a une multitude d'acteurs qu'on voit à la télévision qui ont été formés par Yves. Yves, il avait une espèce de... une réputation hallucinante. Écoute, avec lui, on faisait partie de la troupe. On a fait le concours du théâtre Denise Pelletier, justement. On a gagné le prix. On est allé en Europe faire une tournée en Europe. Et ça, fait que c'est quelqu'un qui nous dirigeait d'une façon... on était des enfants, peut-être des ados, mais on était, il nous dirigeait comme, on avait du talent, fait que, il nous choisissait, puis on avait vraiment une super belle formation, fait que ça nous a vraiment aidé à, puis ben, après ça, ben, c'est pas tout le monde qui a décidé de faire les écoles de théâtre, moi j'ai fait l'option théâtre du cégep Lionel Groulx, qui est une école professionnelle comme le Conservatoire de Québec, ouais, comme le Conservatoire de Montréal, comme... fait que j'ai fait ça, puis j'ai terminé en 99, puis ça va faire, ça fait quoi, ça fait 25 ans l'année passée. Que je fais ce métier-là. Donc,
mais Hugo Giroux, c'est vraiment la passion d'un homme qui te transmettait sa passion qui a fait en sorte que tu t'es dit « Wow, quel merveilleux métier, je veux faire ça de ma vie. » C'est vraiment le fait que lui, c'était un passionné, il a vu en toi énormément de potentiel, il vous considérait pratiquement à l'époque, même si vous commenciez comme étant des professionnels, il vous a montré c'était une partie du métier, du moins, puis c'est ça que tu as dit « Garde ça, ça dicte le reste de ma vie, c'est ce que je veux faire. »
Oui, mais je pense que j'étais habité moi-même par ça à la base, mais après ça, bon, on est un peu, on voit des séries à la télévision, on voit du cinéma, on voit, mais là, après ça, ben là, tu sais, de le faire, puis de faire des exercices, puis de commencer à lire des œuvres, tu sais, c'est sûr que ça commence toujours par le théâtre. Je te dirais que c'est ça, tu sais, jusqu'au secondaire, c'était plus du théâtre, mais après ça, ben la télévision est venue parce que dans notre formation professionnelle, évidemment, la télévision, ça, c'est comme, bon, c'est un passage nécessaire puis obligé. Puis après ça, bien, il y a une multitude de choses, la narration. Puis ça, fait que notre formation nous permet de faire du théâtre, de faire de la télévision, puis la narration aussi. Fait que, tu sais, c'est un métier qui est... Là, on est dans une passe un peu tough. Le métier est particulier. Le métier n'est pas évident. Je pense que la radio aussi. Il y a plein d'affaires qui se passent. Moi, je... Dans un autre registre, tu sais, quand j'ai vu ce qui est arrivé à Patricia Paquin, j'ai trouvé ça complètement dégueulasse. Je veux dire, tu peux pas... Je sais que la radio, c'est intense, mais tu sais, en tout cas. Puis là, nous autres, ben, tu sais, il y a de moins en moins d'auditions. Tu sais, je te dirais que la polyvalence, c'est comme vraiment un luxe. Parce que oui, je fais beaucoup de narration. J'ai fait les voix de BMR pendant 14 ans. Ça, c'est des beaux contrats. Sport Expert aussi pendant 5-6 ans. Bon, hier, je faisais Dodge. Je disais, ça, c'est le fun parce que tu arrives en petit, vous en faites, vous autres, tu arrives en studio, tu n'as pas le texte. Là, tu pars. Puis là, faut que tu livres avec le temps, avec les images, avec la musique. Fait que, ça, j'aime ça aussi. Puis le théâtre, mais ça, j'aime beaucoup ça. On se prépare pour une très, très grosse tournée en 2025 pour un spectacle qui va être annoncé bientôt. J'ai bien, bien hâte. Ça va être, je pense, quelque chose qui va vraiment marquer énormément. Fait que puis la télévision, ben ça, on aime ça en faire aussi parce que les gens ont un sentiment d'appartenance envers ça. Puis à Québec, je trouve ça le fun parce que la radio, c'est important aussi. Les gens sont bien attachés. T'sais, à Montréal, oui, bon, on connaît là, les réseaux puis tout ça, mais à Québec, il y a comme vraiment une teinte particulière, c'est que j'aime bien. Les gens sont très attachés à la radio, puis le média parlé, c'est super important pour une communauté, donc voilà.
Ben, la proximité aussi avec les auditeurs qui est le fun. On rencontre nos auditeurs dans la rue, tandis qu'à Montréal, il y a tellement de monde. C'est quoi, l'agglomération de Montréal, c'est 3 millions à peu près, si c'est pas, ouais, si c'est pas 4, ouais, à moitié du Québec. Donc ouais, c'est bien rare que tu vas côtoyer les animateurs de télé ou encore les animateurs de radio ou encore les comédiens, les comédiennes. Il y a tellement de monde que vous ne croisez pas tout le temps. Mis à part si vous êtes dans votre métier, vous savez où est-ce que les autres se tiennent. Hugo Giroux, lui, il est arrivé dans un endroit où, bon, c'est très intellectuel. intellectuel, quand on parle de théâtre et tout ça, tu sembles avoir un côté intellectuel aussi. Est-ce que ta taille, parce que je suis pas sûr que tout le monde sait là, tes mensurations, là. Vu que tu n'es pas une fille, je me permets de le dire au monde, tu es un géant, là. Tu mesures 6 et 3, tu es à 240 livres. Ta taille, est-ce que ça te faisait peur en disant « Crime, je me ferais pas caster dans les rôles que j'aimerais me faire caster? »
Non, ben écoute, on est quelques-uns, Pat Robitaille, qui a une bonne, une super bonne visibilité, Pat. Jean-Nicolas Véraud est grand aussi, il est moins costaud. D'ailleurs, Jean-Nicolas Véraud envie, mais moi j'ai des bonnes cuisses. Moi je suis un cycliste, puis écoute, vendredi, je vais être au Grand Prix cycliste, j'ai tellement hâte, parce que moi je roule beaucoup, malgré mon physique.
Ouais.
Ça, c'est mon sport cardio, j'en fais tous les jours. Et j'ai des bonnes cuisses. Jean-Nic envie beaucoup mes cuisses. Il est plutôt maigrichon. Mais je suis assez costaud, mais je te dirais qu'il y a un bon... j'ai pas été... Tu sais, je veux dire, tu as vu mon CV, puis je suis pas là pour me vanter, mais j'ai un bon CV. Fait que non, ça n'a pas été... Tu sais, dans le district, je faisais un sergent enquêteur. Bon, c'est possible à CC3.
Ouais.
Lancé compte, on n'en parlera pas. Fait que tu sais, non, ça va là-dessus. Je faisais un garagiste. Donc, un garagiste de CC3, c'est possible aussi. Non, ça ne m'a pas contraint, ça, vraiment pas.
Puis, tu sais, un visage de dur aussi, là, tu sais. Est-ce que les gens, quand ils te voient la première fois, là, ils te castent dans, bon, la catégorie policier et ou méchant, tu sais?
Oui, mais tu sais, je te dirais, Julien Poulin, à un moment donné, il m'a dit une affaire super, Julien, notre Elvis National, qui est un acteur. Tu sais, Julien, c'en est, tu sais, Julien, c'est un acteur, tu sais, je sais pas si tu as vu le film Le Party de Falardeau, oui. C'est une performance hallucinante. Oui, au Québec, il y a peut-être un petit défaut de certaines instances et nous catégoriser un peu. Moi, je te dirais que ma sensibilité est à la hauteur de la grandeur que j'ai puis de la carrure que j'ai. Puis ça, c'est un aspect que je veux de plus en plus faire. C'est drôle, en fin de semaine, pour le Festival de cinéma de Québec, j'ai un court-métrage qui est en diffusion le 13. Je me rappelle plus où exactement, mais ça s'appelle Mourir en silence, un film d'Émile Lavoie puis de Camille Mongeau. C'est un film de genre, un peu horreur, mais je touche à des teintes que j'ai pas touchées, une espèce de vulnérabilité, tout ça. Puis j'aspire à ça. T'sais, d'en haut, je faisais un amoureux, l'amoureux de Maxime Roy, qui est morte. Puis je suis allé dans des zones un peu... puis oui, c'est sûr que j'ai beaucoup à offrir là-dessus. Puis je pense que c'est intéressant aussi de... On est en 2024, puis les choses changent. Puis quelqu'un de CC3 a des émotions aussi. Puis moi, ma sensibilité, elle est très, très, très importante pour moi. C'est sûr que dans le futur, je veux m'en servir, puis je veux la développer plus. Puis moi, j'ai joué Cyrano de Bergerac pendant 111 spectacles. Je peux te dire que la sensibilité, c'est un rôle épique où tout est sollicité.
Ouais.
C'est un rôle absolument, tu es là du début à la fin. C'est un, il faut que tu sois en forme, puis deux, tu vas tellement loin. Puis je l'ai fait, puis je suis très, très fier de ce projet-là. On l'a fait 111 fois à travers toutes les plus grosses salles du Québec. Fait que ça, je te dis que oui. Fait que je suis prêt à relever des défis plus émotifs. Puis tantôt, tu parlais d'intellectuel, oui, mais moi, je suis très sportif. Quand j'étais à l'école de théâtre, bon, les gens ont une perception un peu que notre milieu, c'est un peu pèteux. Bon, oui, c'est vrai, des fois, c'est un peu pèteux, mais... Faut pas avoir peur des mots, faut pas avoir peur du côté dramatique, dramaturgique, c'est vrai. Mais moi, à un moment donné, on me catégorisait à tout être un joueur de hockey, sauf que quand j'ai fait les premiers exercices à la scène, puis qu'ils ont vu le potentiel que j'avais, je me suis fait des nouveaux amis. Fait que je te dirais que ça, à un moment donné, cette espèce de perception-là du sportif qui est acteur, puis qui est intelligent, puis qui est capable de décortiquer un texte, puis tout ça, ça s'est vite estompé parce que. C'est ça, moi j'aime bien le hockey, j'aime bien les sports, je suis bien terre à terre, mais j'aime aussi la profondeur. Fait que je pense que dans la vie, c'est le fun de toucher à tout, mais de ne pas catégoriser. C'est comme de dire que tous ceux qui font de la radio à Québec, c'est tout des cabochons, c'est pas vrai.
Des fois, ça l'aide, là, on va se le dire.
Oui, oui, mais non, mais tu comprends, puis ça, c'est pas vrai. Il y a du bon monde partout. Puis moi, j'aime les gens, j'aime rencontrer les gens, mais c'est vrai que quand les gens m'abordent, alors vous avez quoi, c'est District 31? Moi, j'ai un ami qui est un ancien très, très haut placé du SPVM, très, très haut placé. Puis à un moment donné, tu sais, avec Pat, on allait souvent dans des tournois de golf, tu sais, puis parce qu'on est souvent invité dans des tournois de golf. Fait qu'à un moment donné, c'était un tournoi, puis il y avait beaucoup de gars de la sûreté. Moi, je ne savais pas. Fait qu'à un moment donné, dans la douche, après le 18, le monde me regardait. Deux gars, entre autres, qui salut, des petits clins d'œil. J'étais comme, non, moi, ça m'intéresse pas trop, mais c'était deux gars qui avaient fait ce que moi, j'avais fait dans District 31, c'est-à-dire deux agents doubles. Puis ils voulaient juste me dire, tu fais bien ça. Tu dis, OK, vous me rassurez, gars, parce que dans la douche, c'était pas clair. Mais c'est ça, fait que, ça nous permet de rencontrer plein de gens. Mais les gens me disent, ah, ben vous êtes méchant. Mais madame, je suis sergent enquêteur contre le crime organisé. Pas des gens qui sont détendus dans la vie. Ouais. C'est des gros jobs. Fait que de côtoyer ces gens-là, ça pouvait me coller avec une réalité. Des fois, c'est juste des petites nuances pour que le rôle soit crédible. T'sais, une police, c'est pas juste d'avoir l'air bête. C'est plus que ça. T'sais. Puis quand tu frayes avec ces gens-là, la mafia, le crime organisé, c'est des gars qui sont assez solides et qui sont capables de fronter la dimension épeurante que de leurs ennemis, mettons. T'sais. Fait que... Ouais. Voilà.
Puis, tu sais, juste pour en revenir au casting, une force que tu as, c'est que tu as un visage qui est non conventionnel. T'sais. On regarde des fois, mettons qu'on surfe sur Instagram, on dirait qu'aujourd'hui, les gens ont tous à peu près la même face, la même coupe de cheveux. Surtout chez les filles, quand on regarde ça, tu te dis, ben, t'as peu, là, c'est parce que les filles sont 20 que je viens de voir, puis ils se ressemblent toute la gang. Toi, tu as la chance d'avoir un visage qui ne ressemble pas aux autres visages, là.
Comme disait Michel Bergeron, un visage de porc frais. Non, mais... Bergie. Non, ben oui. Puis tu sais, bon, là, on va pas faire dans la nuance, mais ouais, j'ai un petit côté style scandinave et tout ça. Ben, en fait, tu es dans le métier, il n'y a pas beaucoup de casting qui me ressemble. Fait que ça, c'est le fun.
Ouais, exact.
Ça fait pas que c'est plus facile, mais en même temps, j'endosse complètement la difficulté. Puis là, ben, là, il y a plein d'enjeux de financement, il y a plein d'enjeux d'un paquet d'affaires. Ça rend les choses un peu plus ardues. Mais André Brassard, le metteur en scène, avait dit quelque chose de super, super... il disait, Mané, dans ce métier-là, si tu es capable de dealer avec l'insécurité, ça va bien aller. Puis c'est vrai. Moi, j'endosse complètement ça. Puis c'est ça, mais ça fait pas que le métier est pas enivrant puis est pas stimulant. T'sais. C'est un métier rempli de défis comme bien des métiers. Puis moi, j'endosse ça. Puis quand c'est plus tranquille, ben écoute, on s'entraîne puis on se tient prêt pour quand on va nous solliciter, ben, on va être prêt à sauter sur la glace. Moi, je fais beaucoup d'analogies avec le sport. Fait que...
Qui est-ce qui t'a donné tes premières opportunités, que ce soit au théâtre, que ce soit à la télé ou encore au cinéma? Ça a été quoi tes premières opportunités? Puis c'était qui t'avait donné ces chances-là?
Écoute, j'étais à mon année finissant en 99 à Sainte-Thérèse en janvier. Tu sais, mettons, l'année scolaire finit en mai avec nos spectacles de fin d'année et tout ça. Alain Zouvi qu'on a vu dans 4,5. Écoute, ça, c'est un téléroman qui date quand même, mais 4,5, ça fait un petit bout. Si vous allez sur Google, tu sais, vous allez reconnaître Alain Zouvi, c'est un acteur de théâtre, de télévision, de narration. Écoute, c'est lui qui faisait dans... comment est-ce qu'il s'appelle? Tu sais, le dessin animé qui est super connu, le Buzz Lightyear, c'est ça. Tu sais, c'est lui qui fait... Alain, écoute, il fait la narration de Brad Pitt. Il est hallucinant. Puis Alain, à un moment donné, c'était une pièce à Rougemont. Ça s'appelait Les Belles Ratoureuses, au théâtre d'été. Une pièce britannique qui avait été traduite. C'était Sophie Clément qui faisait la mise en scène. Et Alain était là. Il y avait Annette Garand. En tout cas, il y avait Paul Savoie qui était un acteur très, très, très connu aussi. Puis fait que moi, en janvier, mon année n'était pas finie, mais j'avais déjà un contrat. Puis on l'a fait 85 fois. Je te dirais, l'été, puis ça débordait jusqu'en... début de l'automne. Puis à l'époque, il y avait le gala des masques. Puis parce que, tu sais, le théâtre d'été, souvent, ça a mal été perçu. C'était un peu quétaine, puis c'était un peu cucu. Mais ça, c'était du théâtre de qualité. Puis on avait gagné le masque, la meilleure production. En tout cas, tu sais, ça... Puis pour être membre de l'Union, ça prenait 30 crédits à l'époque. Ça prend toujours 30 crédits. Fait que dans mon été, je suis devenu membre en dedans de un mois et demi. C'est ça, puis c'est ça, puis Clément. C'est qui m'avait appelé, puis elle dit salut. Elle dit, puis elle m'avait enseigné en deuxième année. Ben, tu sais comment je crois en toi, fait que je t'engage. Écoute, j'étais le premier dans ma cohorte à avoir un contrat. Fait que ça a été. Fait que tu sais, Sophie Clément, Alain Zouvi, puis Alain, là, il fait de la mise en scène, puis Alain n'arrête pas de m'engager depuis. Puis Sophie m'avait engagé aussi quelques étés suivants. Donc, ouais, je te dirais que Sophie Clément et Alain Zouvi ont vraiment été des gens super importants pour moi.
Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, oh, de tabarouette, là, ça commence à lever cette carrière-là? Tu sais, parce que, je veux dire, tu dois, à la grandeur que tu as, à la grosseur que tu as, avec la face que tu as, quand tu es à quelque part, les gens disent, sans Hugo Giroux, je l'ai déjà vu quelque part, tu sais, où c'est que je l'ai déjà vu? T'sais, à partir, c'est quoi que tu as fait à la télé ou encore au cinéma, ou encore au théâtre, que tu as fait? Tu as dit, oh, de tabarouette, ça a vraiment propulsé ma carrière, un step supplémentaire.
Ben, tu sais, je te dirais honnêtement, ma carrière n'est pas encore. Je veux dire, je suis présent, on me connaît, mais il y a comme matière à aller encore plus loin, puis ça, c'est ce que je vise. Écoute, je te dirais, parce que oui, le théâtre, tout ça, mais horloge biologique. Horloge biologique, c'est mon bon ami Ricardo Trogi, on est amis depuis. Ben, en fait, lui, il était venu me voir dans mon spectacle finissant en 99, puis on est devenu amis. Horloge biologique, bon, là, on connaît. Ricardo, tous ses films ont fonctionné. 95 était à veille de frôler le 3 millions. Horloge, ça a été un film extrême. Ben, tous ses films. Mais Horloge biologique, au niveau générationnel, on était début trentaine, 32, 33 ans. C'était en 2007, je pense. Ça, c'est un film qui a tout changé. On était à Place des Arts à première. Puis quand le film s'est terminé, écoute, on a senti. Puis moi, je l'avais vu en montage quelques semaines avant. Puis on était une couple de membres de l'équipe, puis t'es comme, OK, mais ça va te torcher, là. Ça va vraiment lever ce film-là, puis ça a été, puis tu sais, pour la génération, autant que on avait fait des tournées partout pour faire la promotion du film, puis c'était vraiment fascinant, parce que là, les filles, en tout cas, votre film de merde, moi, mon chum veut rénover le chalet, fait que ça veut dire quoi, là, ça veut dire que là c'est comme, wow. Puis à un moment donné, au début, à un moment donné, j'étais au Simons, place Sainte-Foy, puis à un moment donné, puis j'étais de dos, là, puis tu sais, bon, comme tu le dis, je suis assez costaud. Puis à un moment donné, je suis dos, puis il y a quelqu'un qui me fait une bine, là, tu sais. Là, je me retourne, genre, OK, lui, il va mourir maintenant. Puis là, c'était un gars, Hey, bro, j'aime tout ce que tu fais. Ouais, c'est le fun que tu le verbalises, mon homme, mais tu abordes toutes les gens comme ça. T'sais? Mais tu sais, il y avait une gêne, tout ça. Puis quand je me suis retourné, ça blonde, je t'avais dit que c'était pas une bonne idée de faire ça. Non, effectivement, c'était pas une bonne idée, mais ça, je me suis calmé parce que du coup, tu fais, hey, buddy, ça me fait plaisir, mais. On est dans le département des chemises, on va se détendre un peu. Là, fait que, mais c'est ça. Fait qu'horloge, oui. C'est sûr qu'après ça, moi, la série O, bon, tout, je pense pas que c'était peut-être ton genre, mais la série O a énormément marché. C'est une série qui a duré 8 ans. Moi, j'ai participé à 6 ans et demi. C'est une série qui je te dis, c'était 1,1, 1,2 millions à chaque semaine. C'était une hebdomadaire. Puis là, c'est la première fois que je faisais un amoureux. Puis ça, c'est une série qui a beaucoup marché. J'étais en couple avec Maxime Arroy. Et ça, le public a beaucoup aimé ce personnage-là, ce couple-là. Puis c'est sûr qu'après ça, ben écoute, il y a plein d'autres affaires que j'ai faites. Mais tu sais, Marc, District 31, ça, pendant 6 ans, tu sais, moi, je faisais à peu près, sur une saison de 120 épisodes, peut-être un 25-30 journées de tournage par année, quand même. Ça, c'est des séries qui ont beaucoup marqué. Fait que ça, mais tu sais, je te dirais qu'Horloge, ça a vraiment été un OK, wow. C'était vraiment un beau succès, puis le film marchait, puis ouais.
District 31, ça a-tu été un deuil quand ça a fini?
C'est drôle parce que la semaine passée, j'ai fait une petite incursion dans Un gars, une fille.
Ouais.
Guilla puis Sylvie, puis c'était la dernière journée de tournage. Là, j'ai dit à Guilla, fini puis tout ça, il dit, on ne sait pas encore, on va voir. Tu dis, moi, j'ai encore des choses à dire, mais tu sais, on verra, tu sais, mais c'est ça, mais tu sais, eux, ils l'ont fait, tu sais, 25 ans, tu sais, fait c'est sûr que moi, quand, tu sais, c'est un métier insécurisant, fait quand tu as une série qui dure 4, 5, 6, 7 ans, tu es comme, tu sais, tu rentres comme, comment je pourrais dire, dans le minding fonctionnaire, tu sais, bon, ben, pendant 5, 6 ans, c'est sûr que les auteurs aussi, doivent être inspirés. Des fois, ils peuvent te faire disparaître, ils peuvent te garder, ils peuvent bon, t'en donner, t'en enlever un peu. Mais je te dirais que, ouais, t'arrives dans une certitude, puis dans un certain confort. Enfin, je devrais pas dire ça parce que c'est un métier qui n'est pas confortable. Mais oui, quand tu sais qu'il y a une continuité, ben puis quand ça se termine, ben là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui va arriver? Fait que c'est sûr que oui, ça insécurise. Mais en même temps, c'est ça la beauté du métier. T'sais, on ne rentre pas au bureau de 9 à 5. T'sais, oui, on rentre au bureau des fois à 5 heures le matin, mais c'est un métier qui est comme, on est tout le temps ailleurs. Fait que ça, c'est le fun. Dès la routine n'est pas permise. Fait que ça, c'est le fun, vraiment.
Les comédiens au Québec sont-ils insécures par rapport à l'argent qui rentre? Je ne veux pas, vous devez vous budgéter, parce que des fois, c'est 3 mois peut-être hyper intense. Là, je parle de quelque chose que je ne connais pas, tu sauras me l'expliquer, mais c'est 3 mois hyper intense, puis après ça, tu as 2 mois où il se passe absolument rien. Ça prend-tu un certain don pour vivre dans l'insécurité comme ça, tu sais?
Ah, complètement. Mais tu sais, c'est un métier insécure, tu sais. À la base, il faut passer des auditions. Des fois, on nous donne des rôles. Moi, j'ai eu la chance qu'on me donne des rôles, puis ça, c'est le fun. Puis ça prouve aussi, bon, le respect que les producteurs ou les diffuseurs ont pour toi. Puis ça, c'est une autre affaire. Quand tu fais l'audition, le réalisateur, il trippe sur toi, mais après ça, il faut que tu ailles à TVA ou à Radio-Canada ou à nouveau. Puis là, c'est le diffuseur qui fait « Hey, je l'aime bien, il est bien bon, mais non, on va en prendre un autre. » Et ça, Ça, c'est poche parce que tu fais, j'ai passé la première phase, mais la deuxième, c'est le diffuseur. C'est ça, c'est eux autres qui diffusent. Fait que ça, c'est une autre affaire. Écoute, mais oui, il y a plein d'acteurs qui sont insécures, il y a plein d'acteurs qui font plein d'erreurs aussi avec l'argent. J'en ai fait. C'est un métier d'émotion puis émotif. Je me considère intelligent, tu sais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, regarde-moi, à un moment donné, moi, je suis pas quelqu'un, tu sais, je suis pas un gambler compulsif, je ne prends pas de drogue, j'aime ça prendre un verre de temps en temps. Mais moi, quand j'étais à Montréal, mon trip, c'était de venir à Québec. Fait que je pouvais passer, tu sais, des week-ends de 3, 4, 5 jours à Québec, puis tu te dis que, tu sais, déjeuner, dîner, souper, tu sais, on connaît tous les bons restos de Québec, l'Ophélia, maintenant, tu sais, deux fois par semaine, mais oui. Oui, puis c'est pas une question de péter de la broue. Moi, je suis pas prétentieux dans la vie. T'sais, je connais ma valeur, mais je suis quelqu'un d'humble, puis j'ai mon côté insécure aussi, fait que je suis balance. Fait que, tu sais, ça... T'sais, j'aime ça, cet équilibre-là entre la confiance puis le doute. Mais c'est vrai, des fois, qu'on est comme émotif, puis on a besoin de relaxer, puis c'est un métier qu'on est souvent dans notre tête. Fait qu'à un moment donné, passer une belle soirée, c'est le fun. Des fois, tu te dis, bah, je devrais peut-être faire attention. Mais en même temps, avec le temps, puis avec l'expérience, puis avec la maturité, ben, on apprend. Puis si on fait des erreurs, ben, on les corrige, puis c'est ça. Fait que, mais oui, c'est déjà arrivé. On entend des fois là, des choses, mais tu sais, on a des comptables, puis tout ça. Mais des fois, oui, des petits côtés émotifs. Des fois, quand on n'a pas eu une audition, on va aller se payer un bon super soir, puis on a le goût de passer une belle soirée. Mais je te dirais qu'avec le temps, avec l'expérience, je te dirais aussi que dans le milieu sportif, il y a bien des joueurs de hockey aussi qui flobent. Mais le rapport à l'argent, puis au niveau de la société, c'est très valorisé. Puis je pense que c'est ça, des fois, qui nous. En fait, c'est notre erreur. On devrait. T'sais, quand tu te connais dans la vie, tu ne devrais pas tomber dans des pièges de. C'est l'image, puis tout ça, mais on le fait. Puis qu'est-ce que tu veux, tout ça, ça arrive, mais on corrige le tir, puis on devient meilleur, puis on. C'est ça la sagesse.
Ouais, est-ce que tu deviens plus rigoureux dans le choix de tes amis qui t'entourent? Quand veux pas, tu grimpes dans ta carrière, que ta carrière va de mieux en mieux, que tu vas dans des endroits, puis ah tiens, regarde, c'est Hugo Giroux, il jouait dans telle affaire. On dirait qu'il y a des gens qui sont plus portés à aller vers vous autres, puis est-ce que tout le temps bien intentionnel, tu sais, de leur part de juste vouloir l'amitié ou ils veulent peut-être tirer quelque chose de vous autres? T'sais? T'es-tu plus rigoureux dans le choix de tes amis maintenant?
Regarde, je vais être bien franc avec toi. Moi, j'ai pas ce rapport-là avec le métier que je fais.
Non.
T'sais, je te l'ai dit tantôt, je veux dire, t'sais, je respecte beaucoup Pat Robitaille. T'sais, Pat, il a une super belle carrière. Il y a vraiment comme un rayonnement, t'sais, merveilleux. Moi, j'ai un rayonnement aussi, mais t'sais, comment je pourrais dire? T'sais, tu parles de ma shape aussi, je pense pas que j'attire. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'instinct puis qui a beaucoup de. Mais j'ai pas ce rapport-là. Quand je rentre dans un lieu, si quelqu'un vient me parler, ça va me faire. J'entretiens un. Écoute, à un moment donné, j'allais au Bello souvent, puis à un moment donné, moi j'aime ça y aller le mardi parce que j'aime beaucoup la politique. C'était les commissions parlementaires. Fait que moi j'aimais ça à un moment donné. Il y avait du monde
T'es
la Côte-Nord, puis les mines, puis tout. Puis, hey, ben, ça va, ma femme. Puis là, maintenant, il y avait un lien, c'est sûr. Je fais de la TV, mais après ça, moi, je parlais. On parlait pas de moi. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, j'ai une business de mines. Puis là, on vient demain. On est en commission parlementaire. Là, il faut parler de ça. Puis maintenant, tu rencontres les gars de la SQ, les gardes du corps qui attendent leur ministre. Puis là, on jase. Puis on se parle. Fait que maintenant, ça, c'est plus ça mon rapport avec les gens. Moi, je veux pas sentir. Je veux pas ça. T'sais, oui, c'est un métier public, mais je n'ai jamais eu la grosse tête avec ça. Je veux dire, je suis plutôt timide. Ben, en fait, je suis capable de me déniaiser, mais quand je rentre en quelque part, je ne veux pas comment. Comme tout le monde, bon. Puis je m'assois.
C'est-tu plus facile quand on est Hugo Giroux qui est mécanicien ou Hugo Giroux qui paraît à télé pour les filles, mettons? Les filles, ça intéresse-tu aux comédiens? C'est-tu plus facile? T'avais-tu plus de succès dans ton ancienne vie que dans celle-ci?
Je tomberai pas dans ton piège. Non, écoute, check-le, là. Il veut poivrer le gars de Montréal. De toute façon, je suis pas de Montréal, mais je suis de Laurentides. Non, écoute, moi, tu sais, je pense que dans la vie, t'es censé être prétentieux. Puis, tu sais, je te dis, moi, je suis quelqu'un. Comment je pourrais dire? J'ai confiance en moi, mais j'ai pas confiance en moi. Fait que, tu sais, on va régler ça. Fait que je me garde toujours une gêne. Honnêtement, j'ai toujours fréquenté des femmes magnifiques, gentilles et tout ça, sans avoir eu j'ai toujours tenté d'avoir des rapports authentiques avec les gens avec qui j'étais. J'ai jamais senti. Tu me vois à face dans la vie, puis je suis assez transparent. Puis encore une fois, je précise, j'ai beaucoup d'instinct. J'ai énormément d'instinct. Ce que ça fait, puis ce que ça m'aide, ouais, je perçois les cabochons. Je perçois les gens qui sont mal intentionnés ou pas vrais ou pas authentiques. Puis ça, c'est pas juste au niveau de ma reconnaissance à moi, c'est au niveau de toute dans la vie. T'sais, j'aime pas les gens qui profitent des autres. J'aime pas les gens qui sont. Puis même dans mon métier, des fois, il y en a qui sont bien fun à TV, mais qui sont un peu poches puis prétentieux dans la vie. Puis ça, j'aime pas ça. Je veux pas m'associer avec des gens comme ça. Fait que, par rapport à mon amitié, ben, comme Ricardo Trogi, c'est un très bon ami, mais c'est mon ami. C'est outre le cinéaste. Puis on parle jamais de projet. Puis ça, c'est super important. S'il pense à moi, il va me le dire. Puis ça, souvent, il me dit, j'étais tout le temps dans ma tête. Ce que ça fait, c'est que je ne veux pas être son ami parce qu'il peut m'engager. Il l'a déjà fait. Puis il connaît ce que je peux faire. Puis mon potentiel.
Donc, c'est quelque chose de sincère. C'est
vraiment mon ami.
Ouais, c'est sincère.
Ouais, c'est vrai. Oui, puis tu sais, mes autres amis autour, tu sais, mon Claude Boivin, c'est un gars très connu à Québec, un ancien joueur là, des Flyers. Claude, c'est mon grand chum. On a une communication hallucinante. Mon autre très, très grand ami, Martin Corbeil, très haut financier à la CIBC. T'sais, j'ai des amis dans plein de secteurs. Fait que Jean-Charles Lajoie, un très, très bon ami à moi aussi. Fait que tu sais, c'est tous des gens qui sont, oui, qui sont dans la game. C'est tous des gens qui ont des personnalités fortes, mais qui sont très authentiques et qui sont très bienveillants. Fait que j'aime mieux m'associer avec ça. Fait que pour les filles, je sais pas, non, je vais jamais tomber dans le panneau là-dedans. Je veux dire, j'ai toujours priorisé des relations à long terme. Puis les gens avec que j'ai rencontrés, c'était toujours axé sur la communication, sur d'apprendre sur l'autre et non pas de. C'est pas un one-man show. Là. Moi, j'aime ça qu'il y ait une discussion puis une communication saine, équilibrée, puis que ça soit pas porté. Moi, je suis pas le nombril du monde. Je suis juste un acteur, ouais. Puis j'essaie de faire du mieux possible mon travail. Mais j'aime pas les gens prétentieux, fait que j'essaie de me dissocier de ça.
C'est le fun parce qu'on en apprend beaucoup sur tes valeurs fondamentales. C'est quand on te pose des questions par rapport à telle ou telle situation, on voit qu'à l'intérieur de toi, tu as une super de belle éducation, puis tes parents sont probablement la raison principale de ça. Hey, je veux revenir au casting. Il y a personne qui aime le rejet, là, on va se le dire. La première fois où tu es persuadé que tu vas avoir un rôle, puis finalement, Hugo, il se fait dire que c'est pas lui qui va avoir ce rôle-là, ça doit être dur émotivement. Est-ce qu'il vous prépare à l'école, à justement, il va y en avoir du rejet, les amis, et ça fait partie du travail?
Il nous prépare à rien à l'école. Tout ce qu'il nous prépare, c'est faire du ballet, puis on fait jamais de ballet. Il Christy de collant trop serré, là, c'est n'importe quoi.
À 6'3", 240, j'aurais aimé te voir collant, faire du ballet.
Avec les cuisses que j'ai, très impressionnant. Non, mais... Non, ben, non, il ne nous prépare pas à ça. Puis, tu sais, je te dirais que, bon, là, il y a une pelletée de séries qui viennent d'arriver, Dumas, Les Armes, puis tout ça. Puis là, il y a une autre série, tu sais, qui va être tournée chez Etias encore, qui s'appelle L'Appel. Je pense qu'on en a entendu parler. C'est le tournage qui a commencé, ou tu sais, va commencer bientôt. C'est sur. Ils vont reproduire le procès de Mom Boucher sans voir Mom Boucher. Fait que c'est toutes les. Bon. Puis moi, j'ai auditionné pour un rôle quand même bien fun. Puis c'est Julie Perrault, la réalisatrice. Puis j'ai fait l'audition, ça fait 3 semaines, un mois et demi. Et ça, je me suis fait coacher. J'étais super prête. Puis c'était une police. Puis à un moment donné, en lisant, je me disais, OK, soit c'est un trou de cul, comme j'ai déjà fait, ou soit on essaie d'y aller dans la nuance. Puis dans le texte que j'avais, mais... Je me suis tellement préparé à ça pour essayer de leur montrer autre chose, autrement, parce que, tu sais, j'ai pas besoin, en toute humilité, j'ai pas besoin de faire grand-chose à l'écran pour avoir un rapport de force. Puis ça, il faut que j'apprenne ça encore, puis c'est un métier qui nous permet d'évoluer tout le temps. J'ai pas besoin de faire des gros yeux pour avoir des gros yeux. Et ça, souvent, tu sais, trop, c'est comme pas assez. Puis dans mon audition, j'aurais dû me fier à mon instinct, c'est-à-dire c'était un trou de cul. Puis j'aurais dû aller plus dans le mépris, mais j'étais trop dans la nuance, puis Julie était là. Non, tu le sais, vas-y. Fait qu'on a fait 4, 5, 6 fois la scène. Puis je l'ai faite, mais j'étais trop préparé à faire autrement. Mais je sais que ce rôle-là, c'est pour moi, puis j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas eu. Puis c'est correct, mais les commentaires étaient super bons. Puis ça, c'est super important. Quand tu te plantes en audition, c'est pas mal le final bâton. Fait qu'il faut tout le temps que tu gardes un standing élevé, puis tu sais, là, c'est là que mon agente est super. Important parce que là, après ça, à l'appel, le casting, la maison de production, puis là, le debriefing se fait, puis quand tu te plantes, ils te disent, moi, ça m'est jamais arrivé. Ça, parce que faut se préparer. Puis la compétition est tellement forte qu'il faut pas arriver là comme un cave. Puis ça, je ferais jamais ça. Mais c'était comme, c'était écœurant, c'était bon, mais semble que c'est ça. Puis, mais tu le sais, t'es comme, je le sais quoi faire, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais. Tu sais, je dirais pas l'énervement parce que les auditions, on en fait souvent, à un moment donné, bon, mais j'étais trop mindé pour leur montrer autrement. Fait que, tu sais, mais bon, je ne l'ai pas eu. Fait que ça a été tough. Jusqu'à, je l'ai parlé avec mon agente jusqu'à là, pas 3 semaines, je le regrette encore. Puis maintenant, elle fait, OK, là, on passe à d'autres choses, il y a d'autres projets qui s'en viennent, on focus, puis tu sais, ça va bien aller. Puis ça, souvent, j'ai peut-être tendance à ruminer un peu trop. Puis ça, c'est peut-être pas la bonne affaire, mais bon, ça, il faut que je travaille ça aussi. Mais l'entraînement m'aide beaucoup. Puis les grandes marches à Québec puis dans le Vieux-Lévis m'aident aussi. Fait que c'est ça, mais c'est un métier, il faut mettre la switch à off, parce que sinon, il faut passer à autre chose, parce que sinon, peut-être des déceptions, on en a plein. Mais il faut passer autre, puis ça fait partie du métier.
Ouais, je me souviens d'une phrase d'Eckhart Tolle qui mentionnait que tu peux conserver ton pouvoir non pas en essayant de changer une décision qui a déjà été prise puis avec laquelle tu n'auras aucun impact, en conservant la décision sur toi, la façon de réagir. C'est toi, ta façon de réagir par rapport à telle situation. Puis c'est une phrase qui avait quand même résonné fort en moi, là, parce que veux pas, même si on dit « OK, on l'a pas eu, on n'a pas eu quelque chose qu'on voulait », on aimerait ça le changer, revenir dans le temps, mais tu peux pas. Fait que ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction par rapport à ça. On dirait qu'on le sait. Eckhart Tolle l'a mentionné. Je le sais, je le sais, je le sais. Mais à chaque fois qu'il y a comme un petit truc que j'aurais aimé avoir que je ne l'ai pas, on dirait que je me dis, Colin, comment ça? T'sais? Alors que c'est moi que je devrais contrôler, c'est ma réaction, puis passer rapidement à d'autres choses. On en perd beaucoup de temps en n'étant pas capable de se contrôler.
Ah, mon Dieu, mais ça, c'est l'histoire d'une vie. On parlait tantôt des erreurs financières. En fait, l'humain est imparfait. Je suis imparfait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est pas pour se dédouaner, mettons, des mauvaises décisions qu'on peut prendre ou des réactions, des fois, qui peuvent être... soit dans nos relations de couple, soit dans notre vie, soit en amitié, soit dans notre métier, soit... Mais tu sais, ça, c'est vrai. Puis ça, moi, ça, c'est un travail que je dois faire. Malgré la force que tu peux me percevoir, je suis très fragile aussi. Ces moments-là où je me tape sur la tête, non, ça sert à rien. Non, c'est sûr que la logique, c'est comme, ouais, mais step, reviens-en, mais tout le monde, le rôle est pour toi. Le rôle est pour toi. Ben là, c'est juste ça qui troule en boucle. Oui, mais je ne l'ai pas eu. Fait que c'est correct. Mais je ne me suis pas planté. Puis j'étais pertinent. Puis ma lecture était très bonne. Mais, fait que, tu sais, quand je parle d'instinct, mon instinct, il allait d'y aller, police, trou de cul, puis mine, mais. T'es allé trop dans la nuance, puis dans la dentelle, puis tout. Fait que ça donne une intelligence au texte. Super, attends, Julie était là. Ben oui, mais bon, super bel job. Mais tu me l'as donné, mais pas assez. Puis ça, je respecte ça parce que c'est ça le métier. Il n'y a pas de passe-droit. Oui, tu peux le faire, mais tu ne me l'as pas montré. Fait que on se revoit une autre fois. Puis c'est ça. Fait que.
Écoute, on passe à d'autres choses. Tu m'apprends plein de choses par rapport à ton merveilleux métier. Est-ce que quand tu reçois une possibilité d'audition, tu reçois les textes, le réalisateur ou la personne qui va t'avoir en casting t'écrit « Voici, ça va être un policier fâché, il a 40 ans, il est célibataire. » Est-ce que tu as une description du personnage au départ ou tu as juste le texte?
Ça, c'est les directeurs. Il y a des directeurs, directrices de casting. Fait qu'il y a quelques directeurs de casting à Montréal. Lucie Robitaille, Pierre Pageot, Karel Quinn, Geneviève Hébert. En tout cas, il y en a d'autres aussi. Là. Fait que ça, c'est des directeurs, directrices de casting qui sont... Eux autres, c'est ça. Eux autres sont engagés par les maisons de production, que ce soit Etios, que ce soit Deferlang, que ce soit Pixcom, que ce soit Super Media. Bon, bref. Avanti, tout ça, puis eux autres, ils sont engagés, puis c'est eux autres qui décident avec les producteurs, c'est-à-dire qu'eux autres, ils font leur travail de casting. Puis aussi, c'est souvent, ils sont super importants parce qu'ils permettent des fois de dire, ben il y en a un qu'on ne voit pas souvent, que ce serait le fun de voir, au lieu de voir toujours les mêmes. Fait que, puis souvent, ben fait que là, on les convoque en audition. Je te dirais, de ce temps-là, il y a de moins en moins d'auditions, mais il y en a. Pareil. Fait que eux autres, c'est ça. Fait que ça, leur travail, c'est comme de défricher déjà, d'amener le casting. Ça, c'est tout filmé. Puis après ça, ben, en réunion de prod avec les producteurs, avec ils font déjà comme un tri. Puis après ça, ils font des sélections. Des fois, il y a des callbacks. Quand, mettons, on est 10-12, des fois, on est 4-5-6, des fois, on est 8, des fois, on est 20, des fois, on est... Mettons, la liste se rétrécit. Mais si, mettons, moi, ça m'est déjà arrivé, je sais pas si tu avais vu la série Bête Noire pour la première année. J'ai fait le callback, on était 4. Fait que 2 gars, 2 filles pour faire le couple. Puis ça, c'est des grosses auditions. Tu passes une heure et quart là avec 2 scènes de 3-4-5 pages chaque. C'est très. Tu sais, c'est quand tu arrives à. Tu passes de 10, tu sais, à deux gars, deux filles. Puis après ça, ben là, tu fais avec. Tu fais les scènes avec les deux partenaires féminines. Puis là, ben après ça. Puis après ça, quand ça c'est fait, ben là, c'est les diffuseurs.
OK.
Là, fait que c'est ça. Fait que là, c'est pas. T'sais, le réalisateur, c'est lui le capitaine, c'est lui qui va réaliser. Mais après ça, non, après ça, il faut aller à Radio-Can, il faut aller à TVA, il faut aller à Nouveau, il faut aller. Bon. Puis là, c'est en réunion de prod avec les diffuseurs. Bon, là, voilà. Nous autres, on veut que ce soit lui. Là, des fois, il fait « OK, mais ouais, mais non, mais moi, je pensais peut-être... » Bon, puis là, c'est là que la négociation se... Mais c'est ça, fait qu'il y a plusieurs paliers décisionnels avant d'avoir le rôle. Fait que ça, puis ça, il y a bien des collègues aussi. Moi, j'ai fait l'école avec Bruno Marcel, qu'on voit dans Stats.
Ouais.
La série « Appeler mon agent » à TVA, je pense qu'il a fait 4-5 auditions avant de l'avoir. Putain. Fait qu'à un moment donné, tu passes des étapes, mais après ça, tu oublies, puis tu dis « Mon Dieu, c'est donc... » Puis quand tu l'as, ben, tu fais « Écoute, t'en reviens pas, tu le crois pas. » Tant que t'as pas mis le costume pour la première journée de tournage, Bruno l'avait dit dans certaines entrevues, il dit « Tu y crois pas parce que c'est tellement des grosses auditions. » Mais c'est ça.
Mais est-ce qu'il y a une description du personnage? Je vais peut-être poser la question différemment. T'sais. Est-ce qu'on veut un Hugo qui va se présenter avec son personnage qui va être très masculin, à la limite extrêmement toxique, ou encore un Hugo qui va se présenter avec le même personnage, avec le même texte, qui va être peut-être un peu plus efféminé? Est-ce qu'il y a une petite description ou vous devez y aller selon le texte que vous avez lu?
Oui. Il y a des descriptions, l'âge, la nature, le rapport, la scène.
Okay.
Des fois, c'est comme des demi-pages, comme des paragraphes, tout ça. Des fois, par contre, ça arrive. Il y a des descriptions, puis qu'on arrive en audition. Ouais, non, là, non, c'est vrai, mais là, j'ai juste respecté la didascalie. Ça, ouais, non, mais ça, on le fera pas. Mais là, ils disent ça quand tu fais l'audition. Fait, c'est là qu'il faut, c'est correct, ils ont le droit. Fait c'est là qu'il faut comme être vite sur ses patins. Parce que j'ai pas été assez avec l'appel. Fait que là, faut que tu te réajustes. Fait que si, mettons, ils disent « OK, très bon, mais là, moi, je veux que tu l'amènes autrement. » Parce que là, moi, on a changé d'idée, c'est plus ça qu'on veut. Parfait. Fait que là, t'as ta préparation, mais c'est à toi d'amener les modifications qui sont imposées. Puis c'est comme en tournant aussi. T'sais, c'est quand on tourne les séries, souvent, ça arrive. « Ah, là, il manque d'énergie, c'est pas assez, ça, c'est trop. » Fait qu'il faut tout le temps changer. Faut tout le temps être on. Faut tout le temps être disposé aux notes. Puis à changer, puis à communiquer. Puis c'est ça. Puis il faut comme, à ce moment-là, il faut comme tu mettes, OK, c'est jamais, ben, c'est pas ça. OK, c'est pas ça, mais c'est pas dramatique. On va le trouver, puis on va le... En respectant aussi le fait que les délais de tournage sont courts, il y a pas beaucoup de takes, c'est rapide. Fait qu'il y a tout ça, mais on est drillé pour ça, puis quand on a du temps de glace, on y va.
Je pense que la petite bière rendue à la maison est méritée là, après ce type de journée-là.
Si tu savais. Ah, si tu savais. T'es voix dans le frigidaire, tu dis « j'arrive ».
Ah oui, tes appels d'avance?
Non, mais je, non, mais tu sais, oui, des fois, c'est ça. Parce que souvent, on se lève très tôt. Maintenant, on se lève à 4h30 pour être sur le set à 5h30, OK?
Ouais.
Puis moi, c'est le district souvent, j'étais souvent calé très tôt. Puis j'avais 2-3 scènes, puis je partais vers 11h midi. Parce que Vincent Guillaume-Otis me disait « Ah, ta petite journée hier, mon écœurant, parce que tu te lèves à 5, mais tu pars à 11h, là, tu t'en vas. » Mais fait que quand tu tournes, t'es top shape. Mais quand t'es dans ton char, puis tu reviens, là, hey, je te jure, là, et là, toute la pression te tombe. T'es comme tellement concentré puis focus sur ce que tu fais que tu tombes dans un état, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est le fun. T'es comme sur une bourrée d'adrénaline, puis... Ça arrive à plein de monde. Je veux dire, souvent, après un show de radio, hier, je sais pas, moi, c'était le débat américain. J'étais ceux qui débriefaient tout ça pendant 3, 4, 5 heures. Quand tu finis, je peux te dire. Puis même après un débat de même, je pense que Camilla, elle s'est pris une petite bière. L'autre, il m'intéresse pas, là, mais non, c'est ça. C'est tellement de pression. Fait que, ouais, on décompresse.
Ben,
mais
c'est ça. On veut tout passer à d'autres choses. C'est ma conjointe qui est en santé. C'est une infirmière clinicienne. Des fois, j'arrive à la maison le soir, il est 7-8 heures. Puis elle me dit « Puis, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité aujourd'hui? » Je suis plus là. On va prendre une petite bière. On va relaxer. Puis après ça, j'espère faire l'amour si tu le désires, chérie. Hey, on apprend plein de choses sur le comédien Hugo Giroux qui est avec nous pour 60 minutes. On va faire juste une courte pause. Merci de rester là, les amis. On va s'en jaser tout de suite après. Juste avant, t'as fait de l'escrime pendant combien d'années? C'est un sport qui sort de nulle part. Moi, j'ai regardé ça aux Olympiques. J'ai halluciné. Je trouve que c'est un super de beau sport, mais on dirait que c'est pas accessible au Québec. Puis toi, t'as fait de l'escrime.
Ouais, mais quand je me promène à Québec, à la radio, il y a une pub d'un centre d'escrime. En tout cas, mais ben écoute, ça, c'est notre formation d'acteur. Ils nous font faire des choses comme... comme dans le temps de Molière. C'est-à-dire, oui, on a première, deuxième année, on avait des cours d'escrime, parce qu'en fait, on avait nos cours obligatoires, philo, français, puis tout ça. Mais il y avait aussi, bon, tu sais, nos cours d'éducation physique, mais nous, on avait, c'est-à-dire, on ne pouvait pas choisir nos sports. C'était l'escrime, il y avait aussi, il y avait d'autres affaires aussi, mais oui, pendant 2 ans, on a fait ça pendant, je te dirais, la session d'été, donc de août jusqu'à décembre, les 2 années. C'est un sport qui est fascinant. Moi, j'ai une grande portée, fait que j'avais un plaisir incroyable, puis on était tous équipés, tout ça, c'était malade.
C'est ça que j'allais te dire, c'est injuste. Moi, je suis à 5 et 10, toi, tu es à 6 et 3. La portée que tu as, c'est clair et net que tu me fends le cœur avant même que je réussisse à te toucher.
Oui, mais c'est, tu sais quoi l'avantage que tu as dans la vie, toi? C'est quand tu vas chez Simon, des jeans, t'en as. Moi, il n'y en a pas, OK? Parce que chez Simon, les 6 et 3, c'est comme si on était des espèces de mutants. J'aimerais ça lancer un message à Peter Simon. Les gars de 6 et 3, il y en a plein. D'ailleurs, je parlais de produits tantôt, Jack and John. Il m'a texté à un moment donné, « Hey man, il en reste 2-3 paires, vas-y, parce que c'est ça, toi t'as un 16 parfait pour t'habiller, nous ouais. autres c'est particulier, fait que oui l'escrime, mais bon.
T'as un 16 parfait pour l'escrime, mais je parlais avec Hugo Gérard il y a de ça quelques semaines, puis on parlait justement de s'habiller, t'sais, pour moi c'est facile, oui. Je peux m'habiller n'importe où, Hugo, là, il a fallu qu'il parte sa propre marque de vêtements pour pouvoir s'habiller comme du monde. Oui.
Mais tu sais, je parlais tantôt de BMR, tu sais, lui, c'était lui le porte-parole, et moi, je faisais les voix. Fait que souvent, lui, il faisait sa partie vocale avant moi dans les studios, dans le Vieux-Montréal. Puis là, lui, il sortait, évidemment, c'était une espèce de... Puis là, je disais, merci d'avoir réchauffé mon bain, mon Hugo. Écoute, je m'assoyais là-dessus, le bain était pas chaud. Si j'aurais pu faire cuire une omelette. Je disais, espèce d'immense gars, super gentil, mais tellement costaud, ça n'a pas de sens.
Ouais, non, c'est un gars super gentil, puis là, quand il te parle sur le bout de la langue, me semble ça fait bizarre, mais me semble que je dirais pas à Hugo qu'il parle sur le bout de la langue, tu sais, il est quand même impressionnant.
Mauvaise décision.
Tellement un bon gars, Hugo Gérard. Hey, on va faire une très courte pause, puis on vient tout de suite. Merci de rester là.
Marceau, le soir. Marceau, le midi.
Des histoires d'hôpitaux, là.
Ouais.
Des histoires que les infirmières au tri peuvent raconter ou les infirmiers au tri peuvent raconter.
Elle avait le stopper aussi de rentrer à l'intérieur. Ils ont rentré le stopper.
Tu dois-tu avoir autre que les batteries lâchent?
Sûrement. Mais c'est commun pour eux, là.
Commun, oui, mais toujours un peu surprenant, là. T'sais, quand on parle par texto de courge butternut d'un chirurgien qui conserve toutes les boules de billard qu'il va récupérer, il pourrait jouer au billard bientôt, là, ce qu'on nous dit au nombre de... Imagine, ça je pense pas que c'est la même personne.
Pour ton rattrapage de Marceau le midi, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
Boulevard 102.1.
Vous prenez une direction au hasard et roulez vers l'inconnu. Une remorque est attachée à votre Toyota Tundra qui la tire avec aisance. La suspension effleure les nids de poules parsemés sur la route. Quand soudain, le tonnerre se fait entendre. Oups, ça c'est mon estomac. Arrêtez de rêver et prenez le volant de votre nouvelle Toyota. Découvrez le Tundra, présentement en stock chez votre concessionnaire Toyota, et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
Que vous soyez un passionné de pickleball ou un marcheur enthousiaste, ne laissez pas l'inflammation articulaire vous ralentir. Peu importe l'âge ou le niveau d'activité, vous méritez de bouger sans douleur. Gynacol anti-inflammatoire soulage l'inflammation et les douleurs articulaires. Ses propriétés anti-inflammatoires, offertes par le curcuma, en font un produit naturel efficace mais doux pour l'estomac. Essayez-le. Profitez d'un rabais de 4 $ au anti-inflammatoire.gynacol.ca. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Gynacol, tu me fais du bien.
La référence pour trouver les meilleures idées sorties, c'est le Passe-partout Service et Bonne Chère. Vous l'avez toujours en main? Bonne nouvelle, il est encore temps de profiter des offres. Avec votre Passe-partout, vous obtenez des rabais dans plus de 150 restaurants, activités, services et hébergements. Vous avez épuisé toutes les offres de votre Passe-partout? Procurez-vous une copie directement au bureau de l'Antidote Média au 6500 Pierre-Bertrand, bureau 200. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, visitez lepassepartout.com.
Bonjour, je suis Marie-Christelle Chica, propriétaire de Zaytoun Cuisine Libanaise au Grand Marché de Québec. On vous cuisine des plats traditionnels libanais authentiques. Venez voyager le temps d'une bouchée. Je fais partie des marchands fiers d'être au Grand Marché de Québec.
Du 12 au 14 septembre, en collaboration avec Molson Export, c'est le retour du festival Envolé Macadam à l'Agora du Port de Québec avec
Dropkick Murphys, The Hives, The Bouncing Souls, Cro-Mags, Race Fist
et plus de 40 bandes qui se produiront au centre-ville de Québec.
Le festival Envoie les Macadam, une présentation Boulevard 102.1, ExoShop, la Ville de Québec et le gouvernement du Québec. Passeport 3 jours en vente sur envoiletmacadam.com.
Vous devez absolument vous conformer aux nouvelles normes de piscine avant la date limite. Faites vite. Décoramp est votre sauveur avec des délais imbattables et une garantie de 20 ans. Décoramp, c'est maintenant. Rendez-vous sur décoramp.com ou foncez à nos bureaux à Québec, Lévis et Saint-Apollinaire.
L'automne approche. Profitez des températures douces pour installer votre nouvelle thermopompe avec Enviro-Confort. Économie, moment cocooning et chaleur garantie. Visitez enviroconfort.com pour découvrir nos offres spéciales de la rentrée. Enviro-Confort, le choix du consommateur numéro 1 en chauffage et climatisation.
C'est la méga promo Hilo. Profitez d'un rabais de 50% sur tout.
Qu'est-ce que t'as là?
Un mégaphone pour la méga promo?
C'est pas nécessaire. Un rabais de 50%, ça résonne assez.
Faites vite, la méga promo Hilo prend fin le 15 septembre. Certaines conditions s'appliquent.
Fou de la bouffe, c'est le choix idéal pour des repas prêts à manger, copieux, frais et savoureux. Offrez-vous des plats délicieux adaptés à vos envies, prêts en seulement 3 minutes. Un nouveau menu succulent chaque semaine avec la possibilité de personnaliser vos repas. Préparé et livré dans des boîtes isothermiques, garantissant des plats au frais jusqu'au moment de la livraison.
Visitez foubouffe.com pour tous les détails. Livraison gratuite partout au Québec.
Fini l'inflation! C'est la déflation des taux chez Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Paquette-Nissan. Profitez-en à la location d'un Kicks à partir de 2,99% ou financez-le à partir de seulement 0,99%. Par exemple, loué sur 24 mois avec léger comptant, le Kicks S à 251 $ par mois ou le Rogue S à 399 $ par mois. Détails pendant la liquidation Nissan chez Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Paquette-Nissan.
Boulevard. Saviez-vous que Denis Gravel a presque été champion de génie en herbe avant de faire de la radio et que Max Larouche adore se faire tatouer les numéros de joueurs de hockey? Ah! Maintenant, vous le savez.
Puis on parle aussi d'affaires pertinentes.
Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
On passe la soirée en compagnie d'Hugo Giroux, du moins les 60 minutes de mars au soir. Merci d'être là. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Merci de nous en informer. Hey Hugo, hier, c'était la journée mondiale de la prévention du suicide. C'est une journée qui te tient à cœur. Puis effectivement, avec raison, au Québec, c'est autour de 3 personnes, malheureusement, qui prennent cette décision-là chaque jour. C'est 3 personnes de trop, puis on espère qu'un jour, le chiffre soit à zéro. Pourquoi cette journée-là te marque autant, la Journée mondiale de la prévention du suicide?
Parce que j'ai vécu. Nous, on était 3 frères. Didier, le plus jeune, moi, le milieu, Hugo, et le plus vieux, David. Et mon plus jeune frère s'est suicidé il a plus de 20 ans, 23, 24 ans. Et mon frère aîné s'est suicidé l'année passée, le 5 juin dernier. Donc, je peux pas... c'est même dans un scénario des fois, tu regardes des films, tu dis « Mon Dieu, ça va trop loin ». Tu peux pas imaginer vivre ça, t'es que deux de tes frères décident de faire autrement. Ça, c'est la phrase clé dans la prévention puis la lutte, faire autrement. C'est quelque chose d'extrêmement troublant. Mon plus jeune frère, on avait à peu près une dizaine de différences. David, on a 1 an et demi de différence à peine. Fait que David, c'est mon enfance, c'est tout. Ça a été tellement difficile, puis ça l'est encore, puis ça le sera toujours. Je peux pas comprendre. Puis ça, tu me donnes une tribune parce qu'il y a bien des affaires qui me tapent ses nerfs souvent quand j'entends. Oui, je suis en crise contre mon frère. Parce que mon plus jeune frère disait qu'il était schizophrène. La schizophrénie, c'est une maladie extrêmement, extrêmement difficile. Et il y a un haut pourcentage de gens, hommes, femmes, qui sont prises avec cette maladie-là, qui se suicident parce qu'à un moment donné, ça n'a pas de sens. David, il y avait des enjeux de confiance énormes, il y avait des... Mais oui, il aurait pu faire autrement, mais en même temps... Puis tu sais, c'est tout le débat, tu sais, David, il n'avait pas d'enfant, il avait une copine, une récente copine de 4, 5, 6 mois, donc il était seul, mais tu sais, l'impact que ça crée dans une famille, tu sais, la nôtre surtout, tu sais, je dirais pas surtout la nôtre, mais tu sais, quand tu en as perdu deux, c'est comme quand tu reçois l'appel le matin, tu fais OK, mais c'est une joke. Là. Puis surtout, Chris, il a pas fait ça. Il m'a pas fait ça. Puis tu sais, surtout avec mon père, tu sais, qu'il y a des enjeux. T'sais, mon père, ça fait 4 ans, tu sais, qu'il. Puis là, il est placé depuis 2-3 mois. Fait que déjà ça, puis ça, lui, il trouvait ça intolérable, très difficile. Tu sais, David, son enjeu, c'est la confiance, la perception de lui-même, la valeur qu'il se donnait, la perception qu'il pensait que les autres avaient de lui. Ça a l'air mince un peu, mais lui, ça le minait, ça le grugeait. Il avait peur de la mort. Puis David, il avait un problème génital au niveau du cœur. Ça s'appelle la bicuspide aortique. Problème qu'ils ont détecté dès sa naissance. Puis quand on était jeune, on allait à Sainte-Justine, puis on allait voir le cardiologue, on passait des tests. Puis là, il était correct. Puis ça, peut mener le cardiologue disait, ben, maintenant, il va falloir l'opérer pour changer ses valves. Moi, je me rappelle en 2022, durant la pandémie, Mané me texte, puis il me dit, hey bro, je pense que je fais de l'asthme. Je monte des escaliers, puis je suis bien essoufflé. Je fais comme. J'ai fait, hey man, je pense pas que tu fais de l'asthme. Je pense que c'était. Puis moi, je suis bon. J'ai la chance de connaître certains médecins, mais là, on est en pleine COVID. Fait qu'il y a eu un rendez-vous avec une résidente. Lui, il habitait le Vieux-Longueuil. Puis la médecin résidente a fait non, c'est pas là ce que tu fais. Fait qu'ils l'ont envoyé à Pierre Boucher sur la rive sud. Puis là, il est passé sur le tapis roulant avec la cardiologue. Puis il a fait tout, tu t'en vas chez vous. Puis pour les deux prochaines semaines, tu ne bouges pas de là. Parce que son cœur est à genre 10 %. Puis je pense qu'à 8 ou à en tout cas. 8-9, là, t'es comme tu te réveilles pas. Là. Fait que. Puis nous autres, on a un passé un peu d'hypochondrie dans notre famille. On est très hypochondriaque. Puis lui, il était plus que moi. Puis moi, j'ai consulté pendant de nombreuses années pour ça. Puis je te dirais que là, maintenant, je le tolère vraiment plus. Mais ce que j'ai su, parce qu'on a beau être frère, puis on a beau se connaître comme le bout de nos doigts, cet aspect-là, je ne le savais pas. Puis ça a l'air qu'il était pire que moi. Fait que je peux te dire que quand tu apprends que tu t'envoies à l'Institut de cardiologie, puis tu vas te faire ouvrir de bord en bord. Pendant 7h30 de temps, ils vont t'opérer. Je peux te dire une affaire, c'est que tu es dans tes culottes, puis lui, la peur que lui a vécu. Moi, j'ai anticipé ça dans ma vie, dans mes lubies, puis dans mes craintes de mourir, puis tout ça. Puis de, t'sais, je me suis jamais rendu là. T'sais, moi, j'ai pas cette maladie-là. Fait que quand lui a subi ça, ça a été l'enfer. Mais tu sais, il était opérant dans 2 semaines. Fait que quand je suis allé le chercher, je me rappelle plus quand, la veille, moi, je voulais juste aller chercher chez eux à 6h30 le matin pour l'amener à Pierre Boucher pour qu'il soit à l'hôpital, pour qu'il soit sécur. Mais il a passé 2 semaines à vivre dans l'insécurité la plus totale. Et ça, ça l'a profondément troublé. Puis après ça, bien, de se faire ouvrir pendant 7h30 de temps, quand il se faisait opérer, là, puis je te le dis, là, j'ai pas dormi. Bien évidemment, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pris 2-3 bouteilles de vin. Et je te jure, j'ai tellement pleuré, mais pleuré tellement profondément que je pourrais plus pleurer comme ça. Je suis allé au bout de tout parce que je me disais, je peux pas le perdre. Tu sais, le traitement, l'opération, on est en 2024, on n'est pas en 1963. Là, je veux dire, tu sais, la science puis la médecine évolue, mais 7h30 de temps à te faire ouvrir, c'est intense. Fait que, puis il y a toujours des risques. Là, le chirurgien m'appelle. Moi, j'ai pas dormi pendant quasiment 24 heures. Il m'appelle avec une voix de pilote d'avion. « Bonjour Hugo, ça va bien, docteur Philippe Demers. Alors, ben, on est tous contents. Ton frère t'a opéré de façon exceptionnelle. On l'a sauvé. » Puis fait que là, je pose des questions. Il dit quand sa réadaptation va être faite, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Puis mon frère a déjà fait des demi-marathons, a déjà couru beaucoup avant que la maladie vienne. Puis moi, je pensais que c'était ça son épée de Damoclès dans la vie. Mais un coup réglé, je me suis dit, oui, il a vécu 3 mois tough. Après ça, il pouvait faire ce qu'il voulait, la course du vélo, n'importe quoi. Il n'y avait pas de contre-indication. Puis c'était comme, tu as une seconde vie, ils t'ont sauvé. Mais non, lui, il a décidé autrement. Puis il a développé beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Il y a eu une prise de poids après parce qu'il était tellement apeuré qu'il mangeait de façon confortable, mais ce qui n'était pas bon pour lui. Puis à la fin de sa vie, il était rendu, je pense, il avait recommencé à s'entraîner. Puis moi, j'étais fier de ça. Mais je pense qu'il était rendu. David, c'est un 5 et 9. Mettons, son poids santé, c'était 154 livres. Mané, il était à 143. Puis après l'opération, pendant 6 mois, il était à peu près à 215. Là, j'étais comme, hey, buddy, t'as fait les deux extrêmes. Là, tu peux te focusser juste sur. Là, tu peux manger. Tu peux. Je sais pas. Ses yeux étaient creux. Mais je pensais pas qu'il était si. Tu sais, il a fait appel à moi quand il a eu l'appel pour son cœur. Puis j'étais là. Puis là, il l'a pas fait le 5 juin dernier. Puis même si je connais mon frère comme le fond de ma poche, il y a des affaires de lui que je connais pas. Puis en parlant avec ses amis proches, ils m'ont dit, ben, t'as pas appelé parce qu'ils savaient que t'allais le convaincre de faire le contraire. Et ça, c'est quelque chose de... C'est sûr que j'aurais pris mon char, puis j'aurais fait la 20, man, un peu comme Guy Lafleur l'a fait à une certaine époque, peut-être pas en 45 minutes, mais je l'aurais fait vite parce que... Et ça, pour moi, ça va me marquer à vie. Tu sais, je suis capable de comprendre, mais je suis capable aussi d'accepter ma colère parce que, tu sais, ma mère puis moi, on s'est occupé de tout. Tu sais, une succession au Québec, là, c'est de la merde parce que le certificat de décès, là, tu le reçois 3, 4, 5 mois après. Puis après ça, faut que tu t'occupes des comptes, t'occupes du compte. Puis là,